Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir à vous et retour dans nos lectures en liberté au texte de Yves Lewet, Falroun. Mon bras enserre la taille de cette brune de 18 ans. Je peux toucher ses reins, ses seins, etc. Des petites gouttes de sueur pointillent les ailes de son nez. Ainsi, le temps est fait d'une myriade de gouttelettes dans lesquelles je la vois reproduite à l'infini, à une certaine époque de l'année, d'une certaine année, dans tel lieu, depuis les dernières invasions. Dans chaque goutte, je peux la voir brune, comme jadis, inchangée, svelte. L'arrondi de sa taille dans la saignée de mon bras, inchangé. Le visage lisse. Un léger creux ombrant la joue, l'œil égyptien, prunelle, grain d'anthracite, cartilage souple des oreilles, sous les boucles lourdes, noires, de beaux cheveux bien lavés et essorés et séchés. Gerbe de jonc du noir des bouteilles d'encre. Autour, tumulte. Toujours l'herbe piétinée, encore humide. Il vient de pleuvoir. Un nuage vite dissipé, dispersé, fondu dans l'air. Je vais, les dents s'agaçant sur un cigare. Une voix, on dirait, d'une sirène odysséenne lente, montant vers d'autres nuages, poussés par l'orgue au-dessus des chemins où sèchent des galettes de bouse. Bousculade autour des buvettes en plein vent. L'œil à hauteur d'estrade suit les évolutions successives des groupes. Folklore. Gants au crochet, etc. Hommes sous, ils en redemandent. Les litres sont vidés à des vitesses terrifiantes, bagarres. Un épice le sang qu'on essuie à l'aide du mouchoir tiré des fontes. Le devant de la chemise, la cravate et les revers du veston sont englués de sang, mélange de mucosité nasale et de sang. L'adversaire porte à la joue gauche une apostume éclatée. Le pus sanglant en coule. Réconciliation devant une nouvelle bouteille tandis que les épouses respectives des belluaires s'injurient. Elle ne fait aucun bruit, cette machinerie à portes feutrées, ornée de miroirs de poudriers. C'est le même jeune visage qui s'y reflète. L'œil blanc-bleu, le nez pointillé de sueur dans cet après-midi orageux, même l'odeur, un peu. De sauvagine s'y imprègne, buée. La bouche s'entrouve sur les dents, pli léger à l'angle de la bouche qu'un sourire retrousse. Ainsi le temps est composé d'une myriade de gouttelettes figées, larmes bataviques. À la surface de chacune d'entre elles, une image se précise, comme dans les boursouflures rondes ou ovales d'une sorcière, au pays de ferme au nom biblique, Judée, Samarie. Un cheval blond disparaît dans un chemin entre les talus couronnés de noisetiers. Sur les bords de l'Élorne paisible se balancent les corolles festonnées des jonquilles, puis, plus tard, dans la saison, des iris sauvages. Dans les bourgs, la torpeur de la méridienne abrutit les poules nichées dans la poussière. Elles font des mouvements de côté avec leurs pattes comme des canards se propulsant à la surface d'une mare. Elles hérissent leurs plumes dépenaillées. Œil, que clôt par instant la paupière albinos, la crête fraise mûre griffée de blanc. De la buvette sort un homme couleur de terre. Il essuie d'un revers de doigt sa lèvre framboisée de vin. La mer brasille sur des milles vides, hormis l'affleurement des roches immémoriales. Je remonte le temps dans la contrée des hommes aux longs cheveux coiffés d'un chapeau à ruban, les cuisses dans des braies plissées. Ils ont un parler rocailleux et vivent dans des huttes de chaume où traîne l'odeur de la fumée. Les ombres attendent au carrefour ceux qui rentrent d'une ripaille ou d'une beuverie lointaine. Il arrive qu'on puisse entendre de nuit grincer l'essieu de la fatale charrette. Elle roule à grand bruit sur les chemins blancs. Des crânes s'y entrechoquent entre les ridelles. Le cocher funèbre fixe la route de ses orbites vides dans une face crispée comme un poing. Jeune fille de jadis. Sa redingote à boutonnage sage, odeur poivrée du corps, aisselle, fleur qu'on baiserait. Le vent pousse le vent, et tel nuage d'alors parmi les nuages d'aujourd'hui, prenant par dilection les contours éphémères de ce portrait aimé. Portrait animé un instant, puis se défaisant dans le soir, devenant un fil, une ligne mordorée au couchant. Et la nuit vient. Il retournait parfois à son enfance, à ses jeunes ans. Il ne s'était pas toujours connu tel qu'il était à présent, grand corps robuste, supportant la tête longue et prognate des Habsbourg. À travers le temps inintelligible, à travers l'espace, sur la terre dont l'apparence se modifie, il voyait un chemin au bord herbu. Il sentait la chaleur empoêlée de braise. Il pouvait voir les chevaux attaqués par les temps, fouettant de la queue, les muscles tressautant dans la prairie près de la voie ferrée, les rails surchauffés au-dessus desquels tremblait l'air, la garde-brique, jaune sale, blessée et mordue de balles de mitrailleuses lors des combats aériens, les grandes portées bruissantes des fils et des isolateurs en forme de pipe que l'on dégommait à coups de lance-pierre. Un homme étendu, mort, près du pont romain, sa figure de mastic dans les trous de laquelle bourdonnaient des mouches de saphir avec, autour, pénétrante, l'odeur vénéneuse de la décomposition. Les grillons que l'on agace d'un fétu au bord de leur minuscule terrier. Les brusques plongeons bras tirés contre la tête dans la plaque froide et changeante de la rivière. Les figues se déshabillant derrière des buissons de hauts genêts. Les trains qui font un bruit d'orage dans la terre. Falroun les revoyait et les entendait. Eliezer, dans son costume sombre poudré de poussière au pied de lourds brodequins de cuir, la chemise plus ou moins blanche, autour du col la cordelette noire de la cravate. Tous les pépiments de la pensée dans le crâne aux tempes concaves sur lesquelles bat une veine bleue en zigzag d'éclairs. Cependant, Catherine, maîtresse sage-femme, sert la soupe rituelle dans laquelle se défont les pommes de terre farineuses, ainsi que des tours de sable émiettées par la mer. On entend sa voix dans la salle à manger, sa voix en flocons d'ouates, parvenant à travers le capitonnage des années, lourde montre aux mécanismes fondus, bloc compact d'un métal amorphe où scintillent les rubis encore enchâssés dans l'épaisse purée figée. Il reste les boîtiers d'or fin ciselés de rinceaux, de monogrammes aux lettres enlacées, les cadrans d'ivoire où les chiffres romains s'inscrivent dans leur tangibilité cicéronienne. Il pouvait se revoir, enfant maigre et pâle, aux yeux bleus, enfoncés sous la boîte cylindrique du front. Les cheveux blonds roux, à l'épaisseur de rhubarbe. Catherine, vieille fille au visage alourdi, disposant au centre de la table le rôti de porc nageant dans une sauce brune, d'où émergent des lamelles brûlées d'oignons, petites escarbilles d'oignons, petits bouts de charbon d'oignons qui s'écrasaient en cendres sous la blancheur irritée de la dent de lait. La maison était semblable à une vaste malle-cabine au coin de cuivre, posée près de la rivière au perpétuel chuchotis. Elle longe toujours le jardin où jadis se tordait un pommier chenu, générateur de pommes galeuses, les meilleures. Elles sont grises et se fripent un peu sur les claies de paille. Quand on les croque, petites et dures, elles laissent apparaître une chair de miel fraîche. Là-dedans, y laisse la trace de cristaux de convoitise au bord de rives en panache de plumes. Elles sont des médailles automnales et juteuses, rongées en diabolos pépinés à la rencontre des anguilles jouant de l'éventail d'herbes sous les eaux fuyantes. Il lui était possible de se rappeler l'enfant aux chaussons à semelles de feutre marchant tel un indien léger au regard des orphelines du couvent. Il leur adressait des baisers depuis sa fenêtre à Brest, rue du Conseil. De sa position élevée, il pouvait envisager, au-delà du mur d'enceinte, la perspective du parc, de sa hêtraie, et tout au fond la longue façade des bâtiments conventuels, dont la ressemblance avec celle d'une caserne n'était pas fortuite. Encore qu'elle fût agrémentée, dans la rectitude de ses lignes austères, de jeunes visages vus de loin, au-dessus de la sagesse panathéenne du col blanc aux pointes arrondies.
Petra's nevi keris, magi chen voler ye wankis, maglevan mi erbini ye, evom bardagen telne. Nezin keris nitran nevi, medeni bate weve bemdi, nezin keris ni metre ugus, ageni bate weve bemnus. Buden neutreis sodi one, Dure nili jeuzeret, awar beurien wila, hi sere shashtu draya. Aes merher ui gralon, tan ni verni ni halon. Penchantant de zendirol, e gaz di leger de gol.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revoici donc ensemble après ce moment musical pour la suite du récit de Yves Elewet, Falroun. Cette Catherine, encore appelée tante Titine, était ensachée dans la noirceur immuable de vêtements de laine. armurée d'un tablier de lustrine, que parsemaient des grains volages de poudre de tabac aprisé, dont les fumerolles habitaient les narines septuagénaires d'un nez à genoux sur le visage, comme une statue d'Oran. À l'étage inférieur, les mâchoires vaticinatrices remuaient la construction cliquetante d'un dentier aux éléments doués d'une existence autonome par rapport à la bouche, dans laquelle il s'abritait. Plus à des fins esthétiques qu'à celles de mastication des aliments. De temps à autre, tout l'appareil semblait vouloir se précipiter vers la sortie, pareil à un chien que le pas d'un promeneur étranger à la conformité quotidienne du paysage attire à l'orée de sa niche en vue d'une reconnaissance de l'intrus qu'arrête la mise en garde d'une série d'aboiements convulsifs. Dans la poche marsupiale du tablier, vaste poche, s'abritait des rayons du jour un sécateur fermé par un anneau de cuir, une tabatière de laque, grandement éraillée et contusionnée du fait de ce voisinage, une boîte contenant des pilules laxatives et un mouchoir à carreaux de la taille d'une nappe, qu'un chiffonnage hâtif façonnait en une boule monstrueuse, faisant ressortir l'incongruité d'un ventre postiche. En animant le pédalier rétroactif de la pensée, il aurait pu s'imaginer, sinon se voir tout à fait, enveloppé de tricot à la blancheur d'hostie. Le bas du corps langé, les jambes jointes dans un sac de laine semblable à un énorme doigt de gant, ainsi qu'il est, ou était, procédé avec les papouses. Les pierres de la balustrade du pont étaient chaudes et par endroits moussues. Une mousse brune et serrée. On pouvait l'arracher, ce qui faisait naître une petite fumée comme quand on écrase une veste de loup. En bas s'enfuyait la rivière, accompagnée de son odeur fade et persistante. Les poules d'eau propulsaient par saccades leurs silhouettes de fer blanc à la surface de l'eau. L'enfant tenait dans sa main des bâtonnets pris à quelques haies voisines des rives humides que la galette granuleuse du crapaud hante avec une circonspection bouffonne. Il les serrait dans la rondeur lactée de son poids de nourrisson, puis les lâchait dans l'espace sous-jacent. Les petits doigts brusquement se déliaient et les brindilles impondérables se dispersaient après une tentative pour planer dans le courant d'air qui tenait ses assises sous l'arche du pont. « Bateau !» chantonnait l'enfant dans un fil de salive mentonnier. Sa grand-mère, cependant, continuait à enserrer ses flancs potelés dans la grisaille affectueuse de mitaine séculaire, tandis qu'une jeune bonne aux joues paumeuses retournait faire provision de petits bouts de bois dont le proche destin aquatique apparaissait inéluctable. Il pénétrait, à la suite d'un chat à l'opulente fourrure grise finement rayée de noir, dans les recoins de vastes chambres, où des meubles montaient une garde inlassable à proximité de cheminées refroidies laissant échapper une respiration sépulcrale et de grands miroirs au teint craquelé pris dans de lourds cadres dédorés. Avec la plus grande facilité, le souvenir, sur ses ailes de sucre, l'entraînait dans telle alcôve surplombant une volée d'escaliers, caissons coincés entre deux poutres à la robustesse africaine. Près d'un lit, clos de rideaux coulissants sur une tringle plafonnière, Il pouvait voir la table de toilette à dessus de marbre blanc-gris veiné de sanguine. Sur la table elle-même, la cuvette et le pot à eau de faïence fleurdelysée. Quelques fioles, aux galbes divers groupées sur une console d'angle, et, de dessous le lit, dépassant parfois, l'anse du pot de chambre à forte circonférence, dans le creux musical duquel s'enfonçait à certaines heures un mince et frileux derrière de 8 ans. À cette époque reculée, le grand château vautour se tenait tranquille sur son perchoir granitique. De temps à autre, il penchait sa tête déplumée sur le côté et coulait un œil en direction des méandres de la rivière. Sur les parois du donjon s'enchevêtraient les lianes du lierre aux feuilles amères et vernissées. D'innombrables oiseaux nichaient dans les trous des murs. L'été, une couronne de martinets véloces piaillait, bec béant, après les moustiques du soir. Il arrivait que l'un de ces éléments, animé d'une vitesse incroyable, entrât dans la muraille comme un projectile dans le centre d'une cible, sans avoir, au préalable, modéré la rapidité de son vol. Max, l'athlète local, grimpait dans le réseau fibreux. Il s'élevait sur la surface verticale d'un des murs, la bouche crispée en un rictus découvrant l'inquiétude de ses dents serrées, l'œil montrant son blanc, grossissant dans l'orbite avec une farouche détermination. Les prunelles s'orientant vers le moindre interstice pouvant servir de point d'appui à l'acrobatique ascension vers le sommet pelé et poussiéreux du colossal débris. Sur la place, la sveltesse archangélique du clocher ajouré piquait les proportions aériennes de son cône de pâte d'amande dans le ciel qui s'y remuait des corneilles jalouses de leurs prérogatives. L'ébranlement des cloches sur leur puissant sommier de fer et de bois ne les inquiétait pas outre mesure, mais plutôt semblait les réjouir, à la façon d'une voix oraculaire comprise d'elle seule, vestale noire et fiévreuse. Le toit de l'église, en jeu de cartes, en écailles de dragon, coulait jusqu'à la terre couverte d'un gravier où les semelles faisaient chanter des noyaux de cerises. À l'intérieur, régnait une demi-obscurité, traversée d'obliques raies solaires dans lesquelles dansaient mollement des microcosmes. Des statues peintes levaient des avant-bras disproportionnés, prolongés de mains bénissantes dont fréquemment un pont arachnéen reliait les doigts. Dans les niches du jubé, apôtres et saints fixaient l'espace clos sous des fronts ridés par le savoir et la lente combustion de veilles successives. À l'intérieur d'un meuble, aux panneaux ornés de croix et qui, en dépit de ses proportions et de sa taille d'armoire, était fixé au mur à environ 2 mètres du sol, se trouvait rangée la soie rêveuse, passementée de fils d'or et d'argent, des bannières paroissiales. Sur le grand rectangle d'étoffe souriaient de béatifiques créatures aux riches robes couvertes de fleurs et d'angelots. Dans l'intimité de la caisse murale s'élaboraient d'ineffables dialogues sous les plis doux qui recélaient encore les odeurs mêlées de la dernière procession, foin coupé et encens. Les hampes des bannières sortaient par le bas, à travers une ouverture allongée, perpendiculaire au long côté de la base du meuble, ce qui donnait à l'ensemble, vu de face, l'apparence d'un mât unique surmonté d'une voile de bois, ou jonglant avec le volume apocalyptique d'une boîte de Pandore. Il pouvait revoir tout cela, certes. Mais il arrivait qu'une sorte de paresse mentale fit obstacle à ce retour dans les régions du passé où dorment les doubles, fixés à jamais dans une seconde de leur durée. Comme la suite d'images photographiques décomposant un geste dans la multiplicité de ses différentes positions spatiales. Devenu presque étranger à celui qui parcourt à cette heure vespérale une route enduite de goudron frais, large coulée de pâte bleu-noire. Cela aussi a transformé le paysage. À présent marqué de bornes chaulées et de panneaux de couleurs à la signification plus ou moins ésotérique. Catherine, sur ses jambes rhumatisantes, parcourait la cour parmi les poules affairées, flottant çà et là, et faisant entendre des gloussements ineptes. Ses mains enfoncées dans la poche ventrale du tablier y jouaient avec la tabatière et un trousseau de clés, dont certaines s'entrechoquaient pendant la marche. Elle heurtait également le sécateur et la boîte métallique de pilules. La cour était fermée par un portail, au-delà duquel montait une route vers la gare lointaine mais visible, et dont le toit était parcouru en toute saison par les potiches redondantes et frémissantes de pigeons pans. Il se perdait en courbette et pirouettait sur les ardoises qu'il conchiait à longueur de jour. La garde-barrière aux cheveux gris, poisson séché dans des blouses étriquées, rapiécées aux coudes, sortait de la maisonnette du côté de la route et fichait ses fesses pointues dans la toile d'une chaise pliante. Ses doigts agiles tricotaient les mailles de quelques chandails sans couleur. Ses doigts très rapides faisaient cliqueter les aiguilles de fer mouchetées de demi-bouchons de liège. À cette vue, les présomptueux volatiles cessaient de se rengorger et de tournicoter sur le toit. Ils le quittaient en une blanche volée et venaient s'abattre sur les épaules et dans le giron de la tricoteuse. Voilà, nous avons terminé pour ce soir et pour cette semaine ce début du récit de Yves Eléouette, Falroun. Nous y reviendrons la semaine prochaine dans nos lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.